santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Comment allez-vous, professeur ?
Mais bonjour Fabrice, je vais très bien. Et vous, mon ami ?
Ben, ça va. Je me suis refait la Casa de Papel il n'y a pas longtemps et il y avait professeur. Maintenant, professeur, moi, c'est vous, c'est plus personne d'autre.
Voilà, Casa de Papel, mais nous, on va pas voler la banque, on va voler la sécurité sociale en mettant en place une stratégie pour que les gens soient plus malades. Donc on va détourner l'argent qui est utilisé par le Big Pharma qui se fait rembourser pour des médicaments par de la santé et on va plutôt s'orienter vers les artisans qui produisent de bons produits qui sont bons pour la santé, qui respectent les critères de bons pères de famille quand on élève des animaux, quand on cultive de bons aliments, etc. Et donc, ce sera une case de Papel, ce sera plutôt, je ne sais pas moi...
La Casa de Salud,
absolument.
Bien.
Bon, et on ne fera pas que des amis, hein, parce que évidemment, comme on l'a déjà expliqué, je pense, la maladie est un business. Il n'y a pas vraiment de volonté de maintenir les gens en bonne santé, mais de les contrôler par la maladie. Parce que sinon, l'industrie agroalimentaire et les pouvoirs politiques en font du vent. Je veux justement, à ce propos, vous raconter une petite anecdote. Donc moi, pendant longtemps, j'étais prof de fac à l'Université de Liège. J'enseignais la biologie. Et on parlait de moi beaucoup entre collègues de la nutrition et j'avais beaucoup de critiques. Mais quand même un peu de respect. Donc à un moment donné, le prof d'urologie à l'époque me dit « Tiens Vincent, viens nous parler un peu de nutrition » et mon intitulé, la conférence sur le temps de midi, se réunissait une fois par semaine, c'était « Comment réduire le risque de 75% d'avoir un cancer de la prostate par l'alimentation ?» Donc je déroule comme terme que vous utilisez facilement ma conférence en donnant des éléments scientifiques, mais également non seulement de l'évidence, mais du bon sens. Okay ? Et à la fin de ma conférence, où manifestement mon propos n'était pas critiquable dans le fond, ni dans la forme d'ailleurs, le prof me dit « Mais Vincent, c'est passionnant ce que tu dis, mais tu sais mon ami, qu'est-ce qu'on va faire, nous, si on a une diminution de 3/4 du nombre d'interventions ? Parce que la prostatectomie, c'est le pain quotidien, c'est ce qui alimente les caisses de notre service. » Et ben, je me suis retourné, j'ai pleuré, j'ai dit, ben donc c'est comme ça, ils sont manipulés et manifestement, la rentabilité est liée à la maladie et pas à la santé. Donc voilà, donc pour te montrer que cette Casa de la Salud, hein, c'est un peu intéressant comme concept. Voilà.
Voilà, on vient de le faire. Et par contre, ça démarre très fort cette émission, puisqu'on s'est mis beaucoup de gens à dos. On salue nos amis de Big Pharma qui nous écoutent, qu'on embrasse bien fort.
Non, mais le Big Pharma, je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Je pense que la médecine allopathique a des solutions. Mais surtout, tu vois, Fabrice, dans la médecine d'urgence, il est évident que si à un moment donné, je fais un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, je ne vais pas demander qu'on me donne à manger la sardine, l'huile d'olive, etc. Je vais demander qu'on m'envoie vite aux urgences pour qu'on me débouche l'artère bouchée, etc. Donc, ce n'est pas l'idée. C'est comme on l'a dit dans les émissions précédentes, c'est le mot chronique. Le mot chronique... veut dire qu'on s'avoue vaincu, on ne peut rien faire pour la maladie parce qu'en fait, elle est multifactorielle. Il y a également un concept important, c'est que pendant très longtemps, le dogme de la médecine était une maladie, une cause, un traitement. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lors notamment de la mondialisation de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie de la chimie, que ont commencé le terrain qui va être à l'origine des maladies chroniques. Et ce terrain, c'est plusieurs facteurs, évidemment. Et donc aujourd'hui, ces maladies chroniques ne répondent plus à ce paradigme, c'est-à-dire une maladie, une cause d'entraînement, ce qui était le cas pour les maladies infectieuses. On identifiait le germe impliqué dans la maladie, on avait le traitement qui allait tuer le germe, et on guérissait. Et puis on reprenait sa vie comme avant. Ici, nos maladies chroniques sont dites des maladies de civilisation, c'est-à-dire que nous avons modifié tellement notre environnement, tellement notre alimentation, tellement notre mode de vie, la sédentarité qui prend des allures extrêmement importantes, vu notamment le fait que les jeunes ne jouent plus, ne sortent plus, il n'y a plus de sport à part de l'articulation du pouce pour utiliser les manettes des jeux ou éventuellement même les doigts pour taper sur son écran de son téléphone. Il n'y a plus cette activité physique et pourtant tellement fondamental. Et Hippocrate avait dit il y a 2400 ans, aucune personne, ni les enfants, ni les adultes bien portants, ne peuvent se permettre de ne pas avoir une activité physique régulière pour rester en bonne santé. Et ça, il y aura une... nous ferons certainement, je ne sais pas cette année, mais plus tard, si l'émission tient ses promesses, eh bien, nous parlerons bien sûr du sport et comment faire du sport pour améliorer sa santé. Donc tout ça pour dire que le Big Pharma a sa responsabilité parce que, évidemment, la maladie est un business. Et comme j'ai dit, on n'a pas un ministère de la Santé, on a un ministère de la Maladie, on n'a pas un ministère de la Santé, on a un ministre de la Maladie. Ceci s'est tout à fait bien démontré lors de cette catastrophique pandémie Covid-19 où on a vu un changement extrêmement important dans la législation par rapport à la liberté du médecin de pouvoir soigner son patient comme il le souhaite. On a donné des injonctions qui étaient à contresens du bon sens de la médecine et de la santé.
Alors moi j'ai une petite musique là qui est terrain glissant. Fabrice, vite marque une pause.
Docteur truc là.
Alors professeur, cher professeur Vincenzo Castronovo, ouais. Nous allons marquer une toute petite pause et on va revenir pour aborder le vrai sujet de cette émission. C'est ça qui est fou, c'est que ça passe vite et que là on n'a pas abordé le sujet de l'émission, j'ai même pas pu le dire. Aujourd'hui, le professeur Vincenzo, il est parti bien en tête et je sais qu'on boit vos paroles, en particulier sur Nutri Radio. Retour de l'émission tout de suite après ceci.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Avec une brillante introduction du professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio. Maintenant, on va aborder le sujet de cette émission. Attendez, Vincenzo, laissez-moi juste recadrer, après je vous passe.
Recadrer.
Je sais même pas que je recadre. En fait, je recontextualise pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. La semaine dernière, on a fait une émission qui évoquait rapidement les 7 colonnes de la santé que vous allez décrire maintenant lors des prochaines émissions, en commençant aujourd'hui par le tube digestif et le microbiote. Voilà.
Absolument. J'ai appelé non pas les 7 colonnes, mais les 7 piliers, parce qu'ils supportent véritablement notre santé. Et le premier, le plus important, c'est certainement le tube digestif, un système remarquable, fabuleux, et son indissociable microbiote, qui est un véritable organe extra-humain qui est le pilote gestionnaire de notre santé. Okay. Et donc, évidemment, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets en une émission, mais on va commencer par ce tube digestif. Un tube long d'environ 15 mètres, donc finalement, entre 15 et 10 mètres, ça dépend. Et donc, si on devait être aussi grand que notre tube, on serait des géants. Okay. Donc ce tube, en fait, s'est raccourci en se repliant, notamment dans la cavité abdominale. Et c'est un système qui est ouvert vers l'extérieur, puisque vous savez, nous avons la bouche qui est l'extrémité orale et l'anus qui est l'extrémité aborale. Okay. Extrémité orale, extrémité aborale. Alors vous devez savoir qu'au début, les animaux n'avaient pas d'anus. Okay. L'anus s'est développé et finalement, plus tard, les animaux avaient une bouche qui se confondait avec l'anus, pour être plus précis, hein, notamment les premiers animaux, les hydres de mer, etc., les méduses, ils ont une cavité gastro-intestinale, c'est-à-dire que les aliments rentrent par la bouche et sortent par la bouche, ou bien rentrent par l'anus et sortent par l'anus. Donc, l'ouverture du tube digestif, bien sûr, mon cher Fabrice, a permis une vie sociale plus intéressante, hein. Vous imaginez d'avoir un orifice buccal qui sert à faire entrer et sortir les aliments digérés, ce serait un peu compliqué.
Il y en a qui notamment, le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui disent beaucoup de.
Notamment dans les soirées mondaines. Hein. Voilà. Mais vous verrez que parfois on est rattrapé par nos origines. On en reparlera tout à l'heure. Donc ce tube. Alors l'ouverture. L'ouverture de ce tube digestif a permis quelque chose de remarquable, qui est la spécialisation segmentaire, c'est-à-dire qu'on a pu réaliser toutes les étapes de la digestion, mais en confiant à des segments particuliers des missions spéciales sur lesquelles vont se concentrer de manière optimale. D'accord ? Donc il y a une segmentation, et donc ce tube digestif, à quoi il sert ? Au départ, sa fonction principale, c'est de transformer les aliments en nutriments absorbables. Okay. Quand vous mangez de la nourriture, et comme vous savez, nous mangeons de la nourriture d'organismes vivants, qui ont d'habitude été tués, mais sachez que quand vous mangez de la salade fraîchement cueillie, elle est encore vivante. Hein. Quand vous croquez un petit pois vert, il est encore vivant. Hein. Donc pour les végétariens, quand vous mangez une bolée de riz, eh bien vous avez réalisé un génocide de plusieurs centaines de milliers de grains de riz. Ok, faut le savoir ça. Et le grain de riz, eh bien il a souffert quand il a cuit évidemment. Quand vous faites du pop-corn, le grain de maïs qui pensait pouvoir donner un plant de maïs et qui va exploser sous des chaleurs insupportables, c'est également un génocide. Et comme on a du mal à se rendre compte que les organismes qui ne sont pas des animaux puissent ressentir des sentiments, on se trompe évidemment, parce que il y a d'ailleurs beaucoup de livres qui ont montré l'intelligence émotionnelle des plantes, et je vous raconterai une petite anecdote, parce que les végétaux ressentent les choses qui arrivent dans leur environnement. Donc néanmoins, tout ça pour vous dire que nous consommons des molécules vivantes qui sont produites par la flore ou par la faune, okay, et qui sont constituées des molécules de la vie qu'on appelle les molécules organiques. Hein. La chimie organique, c'est la chimie qui a étudié les molécules des organismes vivants. Et on en connaît généralement trois, alors qu'il y en a quatre. Il y a les carbohydrates, c'est-à-dire les glucides ou hydrates de carbone. Okay. Il y a les protéines et il y a les lipides, bien sûr. Okay. Et à côté de ça, il y a une quatrième catégorie qui sont les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN. Ces molécules, ce sont, pour les imager, ce sont de longs colliers de perles qui sont unis les unes aux autres. Et ces perles, les perles qui forment les carbohydrates, les perles qui forment les lipides, c'est un peu plus particulier pour les lipides, les perles qui forment les protéines, sont appelées les monomères. Okay. Et elles vont s'assembler pour former des polymères. Alors, ce qui est important, c'est que les monomères sont universels à tout le monde vivant. C'est-à-dire que les perles pour faire des protéines du radis sont exactement les mêmes que celles qui vont faire un humain. Donc, qui vont, par exemple, remplacer votre peau, la peau de Fabrice. Elle fait des mêmes perles. Okay. Donc, il y a une universalité. Universalité, c'est juste. Fabrice, aidez-moi.
Universalité.
Universalité, merci. Si vous ne m'aidez pas.
Mais moi, quand vous avez besoin de moi, surtout, ne me demandez rien.
Voilà. Universalité des monomères. Donc, là, quand nous consommons des aliments, eh bien, la première mission, c'est de les transformer en les polymères en monomères. Les colliers de perles en perles, et ces perles seront celles qui vont être absorbées par l'intestin, qu'on verra bien probablement dans d'autres émissions, parce que déjà, parler de la premier segment va être extrêmement important. Et donc, on va surtout aujourd'hui parler de la seule étape qui dépend de votre volonté, la mastication. Donc, de manière générale, donc vous avez compris que le tube digestif est un système ouvert, okay, c'est un tube très long, qui a une extrémité orale, une extrémité aborale, qui s'est spécialisé avec plusieurs segments, qui ont pour mission, un, la digestion, c'est-à-dire la transformation des polymères en monomères, deux, l'absorption des monomères, et enfin, l'élimination de ce qui n'a pas été digéré. Et également, dans la partie aborale, c'est-à-dire le côlon, essentiellement, vit une population incroyable de bactéries qui forment un organe extra-humain qu'on appelle le microbiote intestinal.
Okay. Vous savez pourquoi on l'appelle le professeur, hein, mesdames, messieurs. C'est le professeur Vincenzo Castronovo qui revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission. Restez avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Et on parle du tube digestif et du microbiote, hein, de ses premiers piliers. Alors vous avez bien dit colonne, j'ai réécouté pendant la pause. On avait quand même ce mot colonne qui avait été prononcé. C'est pas grave, hein. Vous m'avez réécouté tout à l'heure. Est-ce que vous distribuez des bons points, professeur?
Pourquoi? Oui, bien sûr. Ah, ouais, vous en voulez un?
Oui, j'en veux un, bien sûr. Je ne sais pas si je le mérite.
Pour quelle raison?
Je vous reconnais ça.
Quelle est votre légitimité pour réclamer un bon point?
Je sais pas. J'ai toujours essayé d'avoir des bons points quand j'étais.
Il faut les mériter, mon ami. Il faut les mériter.
Je les mérite. Et vous savez quoi? Vous savez, ce qui est important toujours, cher Vincenzo, sur le live de la radio, c'est de recontextualiser parce que les auditeurs, c'est comme un saloon.
Vous voulez un bon point? Je vous donne l'occasion, Fabrice. J'ai listé quatre grandes familles de molécules organiques qui doivent absolument être digérées, qui font partie des aliments, c'est-à-dire des êtres vivants que nous consommons. Quelles sont ces quatre grandes familles de molécules organiques?
Alors, je vais vous les dire, mais d'abord, laissez-moi vous dire que vous pouvez réagir à cette émission en nous envoyant un message sur nutriradio.fr dans le formulaire de contact en précisant le professeur Vincenzo Castronovo, ou alors vous pouvez également préciser santé, enfin vous dites ce que vous voulez, on nous envoie un petit mail et on y répondra lors de cette émission. Il y a aussi un autre moyen pour le faire, c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio, le 0666 945 902, 0666 945 902. Je prends mon temps car vous pouvez aussi, je prends mon temps parce que je suis en train de chercher.
Il y a un bon point à la clé.
À la clé, donc vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp et même un message vocal, vous nous le laissez via WhatsApp, on y répondra.
Et je dirais même aux auditeurs qui peuvent vous envoyer un message avec la réponse de ces questions.
Vous n'avez pas des protéines?
Ah, protéines, oui.
Des lipides.
Oui.
Les glucides.
Trois, les carbohydrates, oui.
Voilà. Et c'est tout. C'est tout dans ce
sens. On en a eu que 3 sur 4.
Les
acides.
Les acides.
Quels acides?
Je ne sais pas, des enzymes.
Non, les enzymes sont essentiellement des protéines, bien qu'il y ait un peu.
J'aime bien ça. Moi, j'ai assisté une fois à une conférence du professeur Vincenzo Castronovo et il pose des questions. Il faut savoir que l'assemblée, c'est quand même des gens qui, voilà, il y a des médecins. Il pose des questions comme ça et boum. Et ceux qui n'écoutent pas, gare à lui, ça nous ramène très loin dans l'enfance.
Donc, mon ami, vous n'avez pas le bon point, je suis désolé. Mince. Mon cœur saigne, mais la quatrième famille, c'était les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN.
Ah, mais j'étais pas loin.
Bah oui, mais acide, ça peut être acide acétique avec du vinaigre, rien à voir. Essayez de transmettre votre hérédité avec du vinaigre, ça n'ira pas, mon ami. Hein.
J'ai déjà essayé.
Oui, imagine. On a vu ce que ça a donné.
Exactement.
Donc, voilà. Alors, avant d'entamer la première étape, je voudrais quand même vous faire prendre conscience que le tube digestif est un système d'une complexité incroyable, d'une importance fondamentale. Et vous devez savoir que c'est le deuxième système nerveux le plus important. C'est-à-dire que le tube digestif est équipé de neurones et on a énuméré environ 500 000 neurones déployés tout le long du tube digestif qui ont une activité autonome et qui sont en communication continue, elles, avec notre système nerveux central. Okay ? On estime que il y a dans le tube digestif autant de neurones qu'il y a dans le cortex de votre animal de compagnie, dans le cerveau de votre chat, de votre chien, etc. Donc ce n'est pas rien. Okay ? Et d'autre part, le tube digestif est le système immunitaire le plus important. Ce n'est point étonnant, étant donné qu'on sait que l'intestin, en particulier, est la barrière la plus vulnérable que notre organisme expose au monde extérieur hostile. Okay ? Si on ne parle que l'intestin, c'est pas moins de 1000 mètres carrés d'une surface d'environ 5 millionièmes de mètres, 5 micromètres, qui nous sépare d'un monde d'une hostilité incroyable. Okay ? Donc, de premier organe immunitaire, 80%, Fabrice, 80%, notez bien, ça pourrait être une question pour un bon point, hein, notez-le sur un petit bout de papier. 80%, je suis bon avec vous, hein, 80% des cellules du système immunitaire actives sont déployées le long de l'intestin. Un truc de ouf, quoi. Okay ? Ensuite, le tube digestif est également le plus important organe endocrine. Elle produit plusieurs dizaines d'hormones en petite quantité qui vont contrôler à distance des processus. Donc, une hormone, c'est une molécule qui est sécrétée d'un endroit dans le sang pour aller donner un ordre à distance après avoir véhiculé par le torrent circulatoire. Okay? Et bien, ces hormones, on les appelle les entéroquines. Système gastro-entérique. Okay? Mais nous allons aujourd'hui nous consacrer à sa fonction de digestion. Okay? Et donc, l'idée de cette relation entre le système nerveux central et le système nerveux entérique et mi-entérique, en fait, explique le fait que parfois on est à quelqu'un, on dit celui-là, je ne le sens pas dans mes tripes, parce que finalement, notre cerveau cognitif, basé sur toute notre histoire, donne à notre intestin des informations qui vont entraîner des manifestations qui vous disent, bah, celui-là, je ne le sens pas. Il y a pas. Ou bien, quand vous êtes fort amoureux, vous vous dites, je l'ai dans mes tripes. Vous voyez ? Expression intéressante. Donc, et c'est en fait le professeur Michael Gerson qui a parlé la première fois de ce second cerveau en 1998. Okay. Alors, important. Donc vous avez compris, j'imagine, parce que vous êtes intelligent, même si vous ne retenez pas tout, mon cher Fabrice, que le tube digestif est un système de travail à la chaîne. Okay. Et le travail de la chaîne obéit à une impitoyable loi qui est la loi du maillon faible. Que dit cette loi ? Elle dit que le résultat global de la chaîne ne peut jamais être supérieur au résultat de l'étape la moins performante. Okay ? C'est-à-dire que si vous avez une chaîne dont tous les maillons peuvent supporter 10 kg, okay, et que dans cette chaîne, il y a un maillon qui ne sait supporter que 1 kg, eh bien, votre chaîne, globalement, ne pourra jamais supporter plus de 1 kg, sinon le maillon faible cassera. Avez-vous compris ?
Oui, j'ai compris. Ça, c'est clair. Sur la dernière partie, j'ai l'impression de m'être accroché aux roues du chariot, là.
Ah, très bien. Donc, ce qui veut dire que pour avoir un tube digestif qui fonctionne bien, et c'est une condition essentielle à la santé, puisque, et j'en reparlerai, Hippocrate l'a dit il y a 2400 ans, toutes les maladies commencent au niveau des intestins. Ok ? Et ce qui va se passer aux intestins va dépendre de ce qui s'est passé avant, évidemment. Okay. Alors, donc on a compris que le tube digestif va devoir dégrader les polymères, les aliments en nutriments, les absorber de manière efficace. Il y a certaines molécules, comme certaines vitamines, qui sont déjà prêtes à être absorbées, comme la vitamine D, par exemple, la vitamine E, la vitamine K, etc. Et également, une mission extrêmement importante du tube digestif est d'empêcher la pénétration de substances qui ne sont pas au niveau monomérique, mais également de bactéries, de virus et de tous ces éléments biologiques hostiles qui veulent nous manger, parce que, en fait, une règle fondamentale dans la biosphère, qui a été un des piliers moteurs de l'évolution, c'est pour survivre et pouvoir transmettre notre génome à la génération suivante, il faut manger et ne pas être mangé. Ne pas être mangé si je fais la liaison. Ok ? Donc c'est important. Alors, donc, vous devez savoir que notre digestif est d'ailleurs le lieu d'échange extrêmement intense et important, et que sur 24 heures, il n'y a pas moins de 15 litres de liquide qui s'échange. Donc c'est vraiment un endroit de trafic. Savez-vous, mon petit ou mon grand Fabrice, hein, que par jour, nous produisons 1,5 litre de salive.
Un litre.
Ouais. Environ 2 litres de sécrétion gastrique.
Bah c'est bon quand on dit qu'il faut boire 1 litre d'eau par jour ou deux. Enfin, voilà, on est bon.
Ah, hein. En fait, il faut... Attendez. que vous produisez donc 1,5 litre à 2 litres de suc gastrique. Un suc extrêmement corrosif. Hein, que nous produisons environ 1 litre de bile, 1 litre de suc pancréatique, 2 litres de sécrétion intestinale. Évidemment que nous n'allons pas éliminer par le tube digestif ce liquide. Il va être absorbé, il va s'échanger, et en général, nous allons avoir une diurèse, c'est-à-dire la quantité d'urine que nous allons émettre, et entre 1,5 litre et 2 litres par jour, c'est dans un bilan hydrique normal. le côlon va réabsorber énormément d'eau, jusqu'à environ 1,5 litre d'eau. Et également, il y a au niveau de l'intestin grêle, on réabsorbe environ 8 litres d'eau. Okay. Donc, vous voyez, il y a un trafic énorme qui va donner l'opportunité, si nous ne respectons pas certaines règles fondamentales, et notamment garder l'étanchéité optimale de cet intestin, de cette barrière intestinale, eh bien, nous allons occasionner des processus qui peuvent initier des maladies comme l'inflammation chronique, comme l'allergie, comme les maladies auto-immunes. Et donc, finalement, vous allez voir que Hippocrate avait raison. Si on ne respecte pas notre tube digestif, eh bien, on prend le risque de développer des pathologies qui dépendront de notre prédisposition épigénétique et génétique. Le polymorphisme dont nous avons parlé dans une émission antérieure.
Merci, cher professeur. Il est temps de se quitter déjà. Le temps passe vite en votre compagnie. C'est ce que les auditeurs...
Mais nous n'avons pas encore avalé.
Ben non, on n'a pas encore avalé. Mais on aura le temps parce qu'il va se passer une semaine avant de se retrouver. Donc, je ne vous ai pas les litres de salive que nous allons avaler d'ici là. On en reparlera. J'aimerais bien aussi, parce que là, vous avez parlé... C'est bien parce qu'avec vous, vous avez un savoir qui est quand même assez impressionnant. Mais vous avez mentionné en tout début d'émission, je m'en souviens. Et vous avez dit qu'on y reviendrait après. Bon, on y reviendra peut-être dans une autre émission. Vous avez parlé de cette... on va dire ces émotions que peuvent ressentir les plantes, par exemple. Ça, ce serait un vrai sujet aussi. Si on pouvait aborder ça, un de ces quatre, ce serait quand même intéressant. Bon, allez, on marque une... Non, on ne marque pas de pause, on se retrouve la semaine...
On se dit au revoir, mais c'était c'est encore bien. Un plaisir. Désolé de prendre le temps, mais je pense que c'est important de pouvoir faire passer des messages et plutôt que d'être, je dirais, trop académique et de donner les sujets sans pouvoir les agrémenter de petites anecdotes qui sont pourtant tellement importantes, en tout cas à mes yeux, je ne sais pas où vous...
Attendez, on adore et prenez le temps qu'il faut, on est là, les auditeurs sont là, les émissions, elles sont dispo en plus en podcast à partir du dimanche 18h si vous venez d'arriver sur le live, donc vous pouvez toutes vous les réécouter en enfilade, bam bam bam, comme ces perles, comme vous l'avez dit, le maillon de la perle, vous écoutez tout, car il suffit que vous ayez une émission qui vous manque, et voilà, c'est là où tous les problèmes démarrent. On se dit donc à la semaine prochaine, vendredi 9h-10h, c'est sur Nutri Radio. Au revoir, professeur.
Au revoir, Fabrice, à la semaine prochaine.
Casa de salud.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.